France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Alors, un beau kit, est-ce qu'on peut dire que c'est un petit beignet mais sans rien, ou alors un pain frit? Un pain frit, on va dire.
Ouais.
Qu'on garnit de ce qu'on veut, de choses salées ou de choses sucrées maintenant.
Et en Guadeloupe, on organise des beaux kits parties.
Exactement. Et chacun peut amener une garniture différente. Alors, hier, il y avait la chiquetaille de morue.
Ouais. Poulet fumé.
Saucisse aux oignons. Il y avait maquereau. Il y avait jambon, bon, classique, ouais, jambon fromage.
Jambon fromage.
Délicieux. Et voilà, il n'est pas beau, le gonflé et doré. Et là, ça va croustiller légèrement.
Ah, le beau kit! Ce petit pain frit dont on fait de délicieux sandwichs aux Antilles, ça doit vous rappeler des souvenirs, Suzy Palatin?
Eh oui, on était en Guadeloupe et il y avait une beau kit party la veille chez mon frère et j'ai amené toutes les garnitures et j'ai refait les beau kits chez moi.
Voilà.
Et nous avons déguster les wokits ensemble.
Absolument. Ah là, Suzy Palatin, bonjour et bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Alors attention, aujourd'hui, il va faire beau et chaud sur notre plateau puisque Suzy Palatin est avec nous en studio. On ne vous présente plus, Suzy. Vous êtes l'une de nos cuisinières préférées dans la bande dont on va déguster, ça on le sait. Vos frites, votre gâteau au chocolat, votre croque-monsieur sont des classiques reconnus sur la scène culinaire. D'ailleurs, il y a plein de grands chefs qui bavent devant votre cuisine. Il y a Pierre, mais il y a Hélène Darroze, il y a Alain Ducasse, vous êtes une cuisinière exceptionnelle, et ça on l'a dit déjà plusieurs fois, et vous êtes aussi considérée en France comme une des ambassadrices de la cuisine créole, vous êtes guadeloupéenne, vous avez publié de nombreux livres de cuisine, et le tout dernier, je l'ai à mes côtés, il y a plus de 100 recettes dedans, ça oui. S'appelle « À ma table créole » de Suzy Palatin, donc recette iconique des îles, chez Hachette Cuisine, avec... Alors, on peut citer le photographe, évidemment, hein, votre ami Olivier.
Oui, Olivier Buagia.
C'est
formidable.
Ça. Et le stylisme de Gladys Palatin.
Oui, ma sœur.
Votre sœur.
Oui.
Donc, c'est une affaire de famille. Et il y a aussi Anne-Sophie Lhomme, hein, pour le
oui,
stylisme culinaire.
Oui, oui.
Vous nous avez préparé, chère Suzy, plein de très bonnes choses épicées.
Épicé.
Voilà, et alors on fait un peu la surprise, mais on va déguster.
Il y a aussi un dessert, j'ai pas mis de piment dans le dessert.
Ah, heureusement, ouais. La question de mangue que vous nous avez rapporté de Guadeloupe, puisque vous y étiez il n'y a pas très longtemps. On ira aussi tâter la cuisine et la culture créole sur le terrain à travers deux reportages. En Guyane, avec notre reporter Clément Baudet, pour découvrir la pimentade. Oui, le plat guyanais par excellence. Et on ira même en Guadeloupe. Je pars à la rencontre d'Hélin Losange, un des pionniers du bio aux Antilles, dans son jardin créole de Sainte-Rose. Rose,
oui.
Dans les fauteuils des chroniqueurs, deux de vos plus grands fans, qui se sont battus pour être dans cette émission.
Ouais.
Elvira Masson à ma gauche et à ma droite, Jérôme Gagnès. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous et toutes.
Bonjour à tous.
Elvira.
Moi, je vous parle d'une chef star de la cuisine créole en son temps, injustement oubliée désormais.
On ira du côté de la Louisiane,
on peut le dire.
Oui. Preuve que la cuisine créole, bah, ce n'est pas que les Antilles, c'est ce qu'on va voir avec vous, chère Suzy et Jérôme.
Et oui.
Alors moi, je vais vous parler d'un vin qui aurait pu être créole à une lettre près.
Ah, petite énigme et résolution des jeux vers 11h30 environ.
Elle est un peu ardue celle-là, je pense.
Oui, elle est un peu ardue. Il va falloir réfléchir un peu pour interagir avec nous en direct. Pour nous confier par exemple un souvenir ou une recette de cuisine créole, un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou bien le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Et pour retrouver tous les contenus de l'émission, à commencer par les très très belles recettes créoles de notre invitée Suzy Palatin, ainsi que nos podcasts, nos bonnes adresses, rendez-vous sur franceinter.fr à la page onvadéguster. Déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de plonger dans les marmites créoles, une petite dégustation surprise. C'est une tradition dans l'émission, ça se passe à l'aveugle évidemment. Vous avez sous vos micros, et bien justement, qu'est-ce que vous avez sous vos micros?
Je vais goûter.
Une petite purée rouge.
Ah, ça chauffe?
Ça chauffe.
Oui, ça ramonne un peu même.
Ça chauffe mais ça brûle pas.
Ah,
non.
Ça brûle pas.
Non.
Suzy Palatin, vous en pensez quoi?
C'est... Il y a du sel. On dirait qu'il y a un petit peu de poivron.
Mm-hmm.
Du piment.
Mm-hmm.
Je pense, ça me fait penser à l'harissa, moi.
Bravo. C'est une harissa.
Ouais.
Bien joué.
C'est fumé? Il y a un côté fumé,
il y a un côté fumé aussi.
Alors il y a une version fumée, celle-ci n'est pas censée être fumée, mais comme le séchage de ces piments se passe soit au soleil, mais aussi un peu de temps en temps dans des pièces avec un feu de cheminée, il peut y avoir effectivement des petites traces de fumage ou de fumaison. Est-ce que vous aimez ?
C'est délicieux.
Ah oui, elle est très très bonne.
Elle est fruitée quand même.
Ouais. Elle est fruitée. Très, très je pensais même qu'il y avait limite un fruit qui avait été ajouté. Il y a une petite sucrosité et ça brûle vraiment pas. C'est qu'on peut pratiquement la manger à la cuillère.
C'est ça.
Enfin, avec
on la mange à la cuillère.
Oui.
Alors, sur l'échelle de Scoville, on est entre 6 et 7. Ça veut dire qu'on est entre le ardent et le brûlant. On est à mi-chemin sur cette échelle simplifiée de Scoville. Vous nous l'expliquez en un mot, Suzy, l'échelle de Scoville. C'est ce qui permet de mesurer la puissance des piments.
La puissance des piments. Il a inventé une solution. Et cette solution, alors on prend, disons, 10 grammes de piment. Et qu'est-ce qu'il faut comme quantité de solution pour apaiser le feu du piment.
Dissoudre le feu du piment.
Voilà, alors là, il faudrait, par exemple...
On est entre 6 et 7.
6 et 7 quantité de solution. Et pour le pimentier, il faudrait 10.
Parce que le piment habanero. Le piment habanero est bien plus fort, absolument.
Mais là, ça m'étonne que ce soit entre 6 et 7, ça.
Vous trouvez que c'est pas assez pimenté ?
Oui.
Eh ben, pourtant, c'est comme ça que ça se situe. On est entre le brûlant et le ardent, mais on n'est pas dans le très très fort non plus. Ben, c'est de la harissa, vous l'avez dit. Alors, on commence à connaître la harissa, d'autant que ce condiment d'origine tunisienne à base de purée de piment rouge fait partie des produits et des savoir-faire qui ont été classé, ça ne vous a sans doute pas échappé, en 2022 au patrimoine immatériel de l'UNESCO, aux côtés de notre baguette nationale notamment. Et la harissa est le plus souvent préparée par les femmes. Dans un cadre familial, elles font sécher les piments au soleil avant de les fendre, de les équeuter, de les égrainer. Les piments sont ensuite lavés, assaisonnés uniquement avec du sel, de l'ail, parfois des épices, de la coriandre notamment, mais c'est pas le cas dans la harissa que je vous ai présentée, et puis ensuite broyée dans un mortier avec un pilon ou bien dans un hachoir à viande manuelle. Ça, c'est aussi une vraie technique traditionnelle en Tunisie. Et cette harissa en particulier, elle est l'œuvre de Leslie Sfez, une Française d'origine tunisienne, qui rend un hommage à Papy Lalou. C'est d'ailleurs le nom de cette harissa. Papy Lalou, ce n'est pas son papy, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais c'est son père, Elie, qui est né en 1945 à Nabeul, en Tunisie, et qui a débarqué dans le quartier Belleville à Paris en 1958, en famille. Il tenait d'ailleurs avec sa famille une épicerie tunisienne très connue, qui a duré très longtemps, chez Frido, qui fut longtemps connue notamment pour sa harissa maison. Et Leslie rend hommage à son père et son grand-père avec la même recette que pratiquaient justement les hommes de la famille. Là, c'était pas les femmes qui pratiquaient la harissa, mais les hommes. La liste des ingrédients, alors elle est vraiment claire comme de l'eau de roche. Je l'ai d'ailleurs à mes côtés. C'est piment, ail, sel, et c'est tout. Même pas d'épices, pas d'huile d'olive. Et elle fabrique également une version fumée. Je vous distribue les pots de harissa. Il y en a un chacun.
Quel beau cadeau, c'est super.
Ça, c'est voilà, il y en a ça, chacun. Il y a également la version fumée. Pour l'instant, Leslie fabrique sa harissa chez elle dans le 17e arrondissement de Paris, mais elle va bientôt ouvrir un laboratoire avec, pour transformer ces fameux piments bouclati de Nabeul séchés au soleil. Voilà. Eh bien, c'est 9,50 le pot de 220 grammes. Ça reste très honnête pour un
c'est
produit artisanal.
Histoire,
d'autant
plus.
Qu'on n'en utilise pas trop. Ouais. Et c'est une très belle histoire de famille.
Surtout et sur la contre-étiquette, il y a marqué « bouche sensible s'abstenir ».
Oui, eh bien, en effet.
Très bien.
Mais ça n'a pas fait peur à Jérôme Gagnès, ni à Suzy Palatin d'ailleurs. Derrière la vitre de la régie, Laurent Thomas, Pierre Faucillon, Fabrice Rivaud, la leçon de cuisine créole de Suzy Palatin. C'est juste après Gimme Love de David Walters et K.O.G. choisi par Djoubaka. Bon appétit sur France Inter.
Sirebaro, tout cette talent les mêmes là. Les mecs à montrer nos chimères, pas ni hasard, y'a qui rendez-vous. Sans cahier de nous oublier, on balle l'une que nous cagitent filet. Livre dans tête dans les sacs, il faut bébé, qui se soit offert, qui se soit dit. Ça qu'il faut, c'est tout ça nous peut faire. Ça qu'il faut, c'est en tout ça nous qu'à quoi. Ça qu'il faut, c'est en l'eau en douceur. Ça qu'il faut, vers le doux vent c'est ouvert. Ça qu'il faut c'est en love. Ça qu'il faut c'est en douceur. Ça qu'il faut c'est en love. Ça qu'il faut. Gimme, 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 gimme.
You give me love, I know, I know. You give me love, I know, I know. singing hallelujah. I did my corner, what they happen, disco in Bozama. I be you want power, you want escape, holla. The people for the top, they not, they listen, don't bother. Tick-tock, tick-tock, time before they wake up, they are let reason, Charlie clear your eye top. It no be what we vote for, see we for the focus. Tricky, tricky, politician, try to kill my mind. Osana, yami, save us from Accra to Lagos. On and off, electric, taking sugar from my neighbors. Confusion and chaos, corruption in the papers. Opia, no, pia, so we won't no go break us. Give me some love. All I need, all I need. I need a give me some love.
Suzy Palatin, vous écrivez en introduction de votre livre de recettes « À ma table créole » chez Hachette Cuisine. Lorsque l'on évoque la cuisine créole, on pense communément à la cuisine de la Guadeloupe et de la Martinique, mais le monde créole est bien plus vaste. Oui. Alors il est vrai que, à vous lire, il ne faut pas confondre la cuisine antillaise qui concerne essentiellement la cuisine des Antilles françaises, oui. La cuisine caribéenne qui s'étend à tout l'espace caraïbe,
exactement.
Et la cuisine créole qui a des frontières beaucoup plus lointaines. Expliquez-nous.
Oui, hein, ça dépasse encore la Caraïbe, puisque pour manger créole, on peut aller effectivement dans les Antilles françaises, voilà. On peut aller dans les Antilles anglaises, on peut aller dans les Antilles d'origine espagnole, comme Cuba, Porto Rico, on peut aller vers le Mexique, au Belize, et on peut aller aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans. Donc le monde créole est très très vaste.
Et vous avez presque oublié l'océan Indien ?
Non, absolument pas. La Réunion, et il y a aussi la Guyane, où on peut
y aller. Voilà. Justement, Guyane. Donc ça veut dire que le monde créole est très très vaste, et s'il fallait en donner une définition, parce qu'au départ, le créole, c'est vraiment un mot qui désigne le colon européen installé aux Antilles. Et
exactement.
Ensuite, ça s'est évidemment élargi. On
non,
peut dire
pas
que...
installé, celui qui naît aux Antilles.
C'est ça.
Celui qui naît aux Antilles, alors c'est un créole. Et en fait, on peut faire un petit parallèle rapide en se disant que la cuisine créole, c'est la cuisine qui naît aux Antilles, qui naît sur un sol partout où il y a eu avant l'esclavage. Et donc, c'est une cuisine qu'on arrange et qui s'arrange de ce qu'elle a et qui devient fabuleuse. Justement, avec très peu de choses.
Une cuisine où se mêle donc influence africaine,
vous évoquez effectivement... africaine, européenne, néerlandaise même.
Amérindienne, c'était
amérindienne,
aussi les autochtones.
Puisque ce sont les premiers habitants. Et aussi en Amérique, l'influence américaine.
Et on dit qu'on trouve aussi souvent beaucoup d'influences indiennes, notamment dans l'océan Indien, mais également aux Antilles françaises.
Absolument.
Quand on pense aux Colombo.
Absolument, parce qu'ils sont arrivés en 1854, après l'abolition de l'esclavage, parce que les Guadeloupéens, les Martiniquais, enfin tous ceux qui avaient été esclaves avant, ne voulaient plus travailler la terre. Et donc ils sont arrivés avec un contrat de 5 ans. Et ils sont restés. Et nous avons le Colombo, le Moltani. Nous avons plein de recettes d'origine indienne. Ils sont arrivés avec leurs semences. Ils sont arrivés avec le curcuma dans les poches, la coriandre.
On peut dire qu'on mange créole là où on parle créole.
Exactement. Oui.
Eh bien, écoutez, pour illustrer ce goût de la cuisine créole et du métissage, je vous propose un voyage haut en couleurs et en saveurs à, attention, Cayenne, c'est la capitale de la Guyane, ce gros bout de France situé en Amérique du Sud, limitrophe du Brésil et du Suriname. Oui. Eh bien, notre reporter Clément Baudet part au marché de Cayenne par un dimanche matin ensoleillé pour percer les mystères d'une recette emblématique de la Guyane. Et on va voir que ça vous parle, que vous la connaissez cette recette, on en parle juste après.
D'accord.
C'est la pimentade.
Je m'appelle Théivan Luce, j'ai 34 ans et là aujourd'hui nous sommes au marché de Cayenne.
Qu'est-ce qu'on peut voir sur les étals autour de nous, là ?
Des bananes, des produits qui viennent aussi un peu parfois du Suriname, du Brésil. On pourra trouver aussi du tapioca, des gombos, de la papaye, du sorossi. C'est un légume qui est un peu amer. Et on a aussi des bananes vertes. Ici, on l'appelle ça bakov. On peut trouver aussi du giromon. C'est la même famille que la citrouille, que le butternut et tout ça. Ici, c'est plutôt la communauté surinamienne, haïtienne qui vend de ce côté. Et de l'autre côté, c'est plus la communauté un peu mongue avec les Chinois. Là, on pourra trouver des marchands péruviens, là. C'est vraiment le département où il y a plus de communautés réunies. Ça se ressent forcément dans la cuisine, parce que la cuisine guyanaise, c'est une cuisine totalement différente. On n'est pas sur une cuisine asiatique, on est sur une cuisine qui mélange un peu tout ça, un peu l'Asie, un peu l'Amérique du Sud et un peu l'Afrique, quoi.
Qu'est-ce que vous venez chercher aujourd'hui au marché ?
Tout ce qu'il nous faut pour faire la pimentade. Déjà, pour une bonne pimentade, on va déjà choisir des bons citrons bien juteux pour pouvoir mariner notre poisson. On va prendre des citrons verts. La petite astuce pour les prendre bien juteux, il faut que la peau soit lisse. Bonjour. 5 citrons, ça va suffire largement pour la recette qu'on a besoin. Là, j'ai vu qu'il y avait des très beaux piments végétariens. C'est une variété de piments qui ne pique pas. On va dire que c'est un peu comme un poivron.
Et donc, il y en a de toutes les couleurs. Il y a des verts, des oranges, des rouges.
Il n'y en a pas un qui a forcément plus de goût que l'autre. Là, on va prendre des herbes chez notre ami Louis. Ça va ? Non, super bon enfant ici, quand même.
Puis ça danse aussi derrière les étals. Hein.
Si on est triste, on est au marché, on est content. Bon, ben là, c'est parti. On va cuisiner à la maison.
Allez.
La pimentade, c'est vraiment un plat réconfortant. C'est un plat qu'on mange en famille, entre amis, après la pêche. Un plat aussi qui est assez rapide à faire. Pour 4 personnes, on a pris 4 darnes d'acoupa. L'acoupa, c'est un poisson blanc. On pourrait le faire avec du colin, avec du maigre, avec des poissons comme ça. Un poisson blanc de préférence. Alors pour commencer, on va faire la marinade. On va mettre les darnes d'acoupa dans un saladier. On va commencer avec 2 jus de citron, des citrons verts de préférence pour que le goût soit vraiment marqué. Pour l'ail, on peut partir sur 2 gousses. Après, c'est selon vos goûts. Hein. On va mettre un peu de thym dedans. On va rajouter sel, poivre et de l'huile maintenant. À la main, dans un grand saladier, on mélange tous les saisonnements. Là, on va le laisser mariner à peu près, on va dire, une vingtaine de minutes. Là, pour le moment, on va couper nos légumes pour faire la pimentade. J'ai besoin de 2 oignons blancs, juste émincés finement. Je vais couper les tomates en 4. Hein. 4 petites tomates, normalement, ça suffit pour 4 personnes, parce qu'à l'époque, on n'avait pas trop les moyens d'acheter des tomates. Alors du coup, on mettait très peu de tomates et on a rajouté du roucou.
Du roucou ?
Oui, le roucou, c'est une poudre qui est faite à partir d'une plante. Les Amérindiens s'en servaient à l'époque comme peinture de guerre aussi. Ça ressemble à de la poudre de tomate.
Mais est-ce qu'on peut faire de la pimentade si on n'a pas de roucou ?
On remplace par du concentré de tomate et ça ira très bien. 6 à 8 piments végétariens. On va les émincer aussi, très finement.
Ça sent extrêmement bon.
C'est totalement fou, cette odeur-là. On va couper nos herbes, persil et cive ou cébette. Là, on peut voir que le poisson est bien mariné, hein, parce qu'en plus, on commence à faire une pré-cuisson. Voilà, là, on va mettre un peu d'huile pour faire revenir tous les éléments, petit à petit, jusqu'à ce qu'on soit prêt à mettre le poisson. Du coup, maintenant, je vais rajouter le roucou à la préparation. C'est épaissi tout de suite. On va juste assaisonner ça un tout petit peu.
Sel, poivre.
Là, maintenant, on va rajouter nos darnes de poisson une par une dans la sauce tomate à feu doux. Là, on va couvrir pour que la vapeur puisse cuire le poisson beaucoup plus rapidement. Au bout de 5 à 10 minutes de cuisson, je retourne chaque darne de poisson, rajouter le reste de ma marinade. Et du coup, là, on va laisser cuire encore un tout petit peu. On va vérifier avec un petit couteau. On va piquer. Quand le couteau rentre et quand le couteau ressort, on voit que notre poisson est cuit, comme un gâteau.
Et avec quoi on sert ça, Taïwan ?
En Guyane, on mange souvent la pimentade avec du riz blanc et des bananes frites. C'est vraiment le plat de mon enfance. C'est comme ça que ma grand-mère la faisait et du coup, je fais un peu pareil.
Bon appétit.
Merci. Il a dû se régaler, notre reporter Clément Baudet, avec cette pimentade signée Taïwan Luce. Alors lui, il est né à Cayenne, d'une mère martiniquaise et d'un père chinois cantonais qui tenait un restaurant. Il a fait ses classes en métropole avant de partir cuisiner aux États-Unis, puis aux Antilles. Il est revenu ensuite en Guyane et figurez-vous qu'il va ouvrir Taïwan Luce, un restaurant au printemps à Cayenne. On va y aller ensemble, non, Suzy Palatin ?
Je suis d'accord, je suis déjà dans l'avion.
Elle vous touche, cette recette, et elle vous parle,
oui.
Cette recette de pimentade ?
La pimentade, ça ressemble un peu au courbouillon de poisson. La différence qu'il y a, c'est que dans la pimentade, en général, en Guyane, ils mettent du concentré de tomates et ils mettent aussi des oignons. Et nous, dans le courbouillon de poisson, c'est sacrilège de mettre des oignons. Ma mère dit « Ah non, pas d'oignons dans le courbouillon de poisson, ça rend le courbouillon de poisson trop doux. »
C'est ça.
Ça l'adoucit trop. Et la pimentade, en fait, comme il y a beaucoup... Mais la cuisine, c'est intelligent. Donc, comme il y a beaucoup de piments dans la pimentade, il y en a au moins 5, Je trouve que c'est bien aussi de mettre les oignons pour adoucir un peu. Donc c'est parfait. C'est une recette que j'aime beaucoup.
Il y a une très belle recette de courbouillon de poisson justement dans votre livre avec de l'huile de roucou. Alors l'huile, on utilise aussi en Guyane de l'huile de roucou.
De l'huile de roucou.
Qui est encore un exemple d'un produit, d'un condiment d'origine caraïbe.
Parce que le roucou c'est endémique et donc comme il l'a dit d'ailleurs, les Amérindiens s'en servaient
pour se
protéger du soleil et des insectes.
Et des moustiques, absolument.
Voilà.
L'huile de roucou, mais qui intervient également...
Et qui est délicieuse.
Et qui intervient également dans les plats et tous les processus culinaires créoles. Oui. Allez, une petite recette pour montrer justement que la cuisine créole, c'est une cuisine de métissage. On part sur... l'idée des nems. Alors il est vrai aussi que il y a beaucoup d'influences chinoises dans la cuisine créole, notamment à la Réunion.
À la Réunion, oui.
Sauf que vous
et
faites...
aussi en Guyane. Hein. En Guyane, il y a une grosse influence chinoise dans la cuisine guyanaise, puisqu'il y a beaucoup de Chinois. Alors donc la cuisine, je vais employer un mot guyanais, je vais faire genre de moun van mené. Ça veut dire que les gens que le vent a emmenés, j'adore. Je trouve ça très poétique. Alors donc, ils se sont appropriés certaines recettes, ils les ont transformées et il y a cette influence chinoise aussi en Guyane.
Et vous êtes emparé de cette technique du nem.
Oui.
Mais pour faire une farce et une recette toute personnelle, que personnellement j'adore, Elvira aussi. On en a mangé bien deux ou trois fois notre poids. C'est des nems coco épinard. Oh là là.
Coco épinard, et j'ajoute dedans soit du crabe, soit des crevettes. Là, j'ai mis du crabe. J'aime beaucoup les faire avec les crabes de chez nous, les crabes de terre, les nems aux épinards. Parce que le crabe de terre a un goût très particulier. Je suis sûre que vous n'avez pas tellement trouvé le goût des tourteaux.
Non,
voilà.
Exact. Et c'est du coco, c'est du lait,
il y a un peu
de chair.
Oui, il y a un peu de chair et un peu de lait.
Alors donc la farce, racontez-nous en un mot.
La farce, c'est des oignons, un peu d'ail, je mets de la coriandre fraîche, je mets donc du crabe ou alors des crevettes, et je mets évidemment de la noix de coco râpée et un peu de lait de coco.
Il y a la gourmandise, la rondeur de cette coco râpée justement, qui est d'habitude un produit associé à la confiserie ou la pâtisserie. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme?
Il a
la bouche pleine.
Moi qui n'aime pas tellement la coco d'habitude, je trouve qu'elle est très discrète, elle est très, c'est très harmonieux. C'est très harmonieux et c'est je sais pas comment dire, c'est très confortable, c'est un vrai bonbon en fait.
Ça c'est de la vraie comfort food et en général la cuisine de Suzy Palatin est très confortable comme vous dites.
C'est un bonbon.
Après est-ce que on s'embarrasse pas un peu avec le pliage, il faut trouver un paquet de feuilles de riz ou un paquet de feuilles de blé. C'est pas trop compliqué?
Alors moi je préfère la feuille de blé, c'est plus facile, j'avoue. Mm-hmm. J'avoue, je suis la feuille de riz se...
Vous les trouvez où vos feuilles de blé?
Les feuilles de blé, je les trouve dans tous les commerces asiatiques et dans toutes les et maintenant même on en trouve dans certains supermarchés.
Ça se vend en petits carrés.
Vous pouvez prendre en petits carrés, donc c'est déjà tout fait. Sinon en grands carrés que vous allez découper en quatre et puis faire des piles comme ça. Ça va très très vite.
Les nems, coco épinard, signé Suzy Palatin. La recette sur franceinter.fr à la page on va déguster. Évidemment dans votre livre, à ma table créole chez Hachette Cuisine. Vous deviez nous faire goûter aussi, mais ça va être un peu plus tard dans l'émission, des samosas, car vous avez oublié la sauce. Et on vous dit tout, on est en direct. Votre mari Philippe arrive avec la sauce dans un instant. Donc on va donner la parole.
On a la sauce.
Ah, vous l'avez ?
Ça y est.
Alors, préparons les samosas avec la sauce et pendant ce temps-là, on va tenter un accord avec le verre. Et ça, c'est la chronique de notre ami Jérôme Gagnez.
On va déguster sur France Inter.
Alors, il paraît qu'il y a des auditeurs et des auditrices qui répondent à l'énigme bachique de Jérôme Gagnez.
Qui était que c'était créole à une lettre près, votre vin ?
Oui, exactement.
Alors, Livia nous demande si ça pourrait être pomerol, mais ça fait un petit peu plus qu'une lettre près.
Oui, ça fait un petit peu plus.
Créole, pomerol.
Mais c'était bien tenté quand même.
Un peu plus qu'une lettre près. Néanmoins, c'est pas loin. C'est réellement pas loin.
Géographiquement ?
Oui, c'est tout près géographiquement, donc bravo. Non, on parle de Guyenne et de Guyane.
Voilà. Ah ! Alors, Guyenne.
Alors, la Guyenne est une province française
qui
correspond au Bordelais aujourd'hui. Et je vous parlais de Guyenne parce qu'il y a eu là-bas une bataille le 17 juillet 1453 qui a opposé les Anglais contre les Français, et les Français ont gagné. Ce fut la dernière bataille de la guerre de Cent Ans, la bataille de Castillon.
Il connaît toutes ces dates et c'est sans fiche en plus.
Et donc voilà cette bataille, et donc ça a donné naissance. Alors c'était Castillon, maintenant ça s'appelle Castillon la bataille. Et donc nous sommes à Castillon les amis, en appellation Bordeaux, Castillon Côte de Bordeaux, autrefois Côte de Castillon. Alors je vous parle de cette appellation parce que j'ai fait une dégustation de d'une petite cinquantaine d'échantillons il y a trois semaines. Ça représentait un certain nombre de vins de l'appellation. Et j'ai eu un véritable coup de cœur. On a vraiment, ce jour-là, dégusté avec mon copain Henri Clemens, qui est journaliste à Bordeaux, et on goûte souvent ensemble. Et on a goûté 45 échantillons, et on n'avait jamais eu... autant de vins qu'on a aimé sur 45. C'était jamais arrivé. Et on s'est dit, c'est quand même formidable, l'appellation est formidable. Alors, je vais vous dresser un petit peu le portrait de cette appellation. Je vous rappelle très rapidement la carte postale. Bordeaux. Vous voyez la ville de Bordeaux. Vous avez la Garonne qui monte comme ça, traverse la ville de Bordeaux. Elle rencontre après Bordeaux la Dordogne qui vient de la droite, qui vient de l'est. Ça forme la Gironde. Tout ce qui se situe à gauche de la Gironde et de la Garonne s'appelle la rive gauche. Tout ce qui se situe entre la Garonne et la Dordogne s'appelle l'entre-deux-mers, entre deux marais, parce qu'il y a le Mascaret qui va comme ça, l'eau de mer qui rentre comme ça dans les deux rivières. Et puis tout ce qui se situe à droite de la Dordogne, donc au nord de la Dordogne, s'appelle la rive droite. C'est pas très compliqué. Nous sommes ici rive droite, juste à côté de Saint-Émilion. Alors on va mettre Saint-Émilion, 45 km à l'est de Bordeaux. Et là, Saint-Émilion, c'est une grosse appellation qui fait 5000 hectares. À l'ouest, il y a les Fronsac et Canons Fronsac, dont on reparlera certainement parce que ça aussi c'est une appellation passionnante. Et à l'est, il y a Castillon. Alors Castillon, on en parle moins, c'est moins connu. Mais le plateau Calca de Saint-Émilion, qui fait la gloire de Saint-Émilion, mais c'est le même, il se poursuit à l'est, il s'arrête pas. C'est pas comme le nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière française, hein, il continue. Et il va jusque à Castillon. Et donc on a à Castillon des sols d'une qualité absolument exceptionnelle, un terroir de dingue, avec une viticulture qui est absolument remarquable, mais c'est moins connu que Saint-Émilion. Alors, les amis, quand vous avez besoin d'acheter 3 bouteilles, 6 bouteilles pour la naissance du petit, si vous avez envie de mettre plutôt 25 que 75, allez à Castillon.
C'est un bon argument.
Parce que vous avez quand même des vins qui sont absolument remarquables. Alors, je vous parle aujourd'hui d'un vin qui vient du plateau calcaire et des coteaux argilo-calcaires, et qui s'appelle le château La Croix-Lartigue, millésime 2017.
C'est bon.
C'est une propriété qui fait 8 hectares. Alors, Castillon, c'est 2300 hectares, 230 vignerons, en gros. Donc, c'est une surface moyenne de 10 hectares. Ici, on a 8 hectares. Et c'est dirigé par Olivier Verdier. Et alors, Olivier Verdier, il est pas manchot, le garçon, parce qu'il nous sort un très, très joli vin. Vous l'avez goûté. J'ai beaucoup aimé ce vin parce qu'il constitue pour moi tout à fait la synthèse de ce que l'on attend d'un grand Bordeaux. Un grand Bordeaux, c'est à la fois une certaine suavité, c'est une expression fruitée intense, mais c'est aussi, et on l'a bien en bouche ici, c'est aussi des tanins un peu saillants, un caractère un peu séveux, parce que le calcaire donne cette texture en bouche des vins, ce côté un peu séveux, donc quelque chose qui est dans la jeunesse, 2017 c'est jeune, dans la jeunesse, un vin qui est un tout petit peu accrocheur,
oui, mais
le grain est très fin, voilà.
Franchement, le toucher de bouche est très confortable.
Mais on sent cette trame tannique qui est présente, elle est gage de vieillissement, elle nous rassure sur l'avenir de ce vin, et pour autant, elle ne nous empêche pas d'avoir beaucoup de plaisir à goûter ce vin, parce que, comme vous le dites, François-Régis, il y a un certain confort, il y a un très joli toucher de bouche, élégant, fin, il y a de la longueur, il y a de la longe, le bois ne prend pas le pas sur le vin, ce qui est le grand défaut de la région bordelaise. Alors tout le monde dit, oh là là, mais on met beaucoup moins de bois qu'avant. Il y en avait tellement avant qu'il faudra une génération pour qu'on revienne à des proportions raisonnables. Et il y a, heureusement, des vignerons qui ne sont pas des menuisiers. Voilà, exactement, qui ne font pas des vins de menuisier. Donc là, on a un vin, le raisin
on
est en avant.
On le connaît par cœur, notre Jérôme.
Le raisin est en avant, le fruit est en avant. Vraiment, moi je trouve que c'est un très beau vin, ça vaut 21 euros. Alors, d'aucuns diront 21 euros c'est cher. Pourquoi ? Mais là, les rendements sont faibles, il y a un gros travail à la vigne. Donc oui, c'est un prix, 21 euros, mais quand on considère que c'est un vin qui va vieillir 20 ans, que vous pourrez ouvrir pour le mariage du petit et que le vin sera toujours debout, il n'y aura pas un pet de jeu dans la bouteille, bah, il y a un moment où on se dit que finalement 21 euros, ça n'est pas si cher payé que ça. Donc il y a une autre propriété qui s'appelle Clos Bellevue, qui fait des vins un peu plus accessibles et tout aussi délicieux. Donc je ne peux que vous recommander ce Château La Croix Labri 2017 en Côte de Castillon.
Un grand merci Jérôme Gagnès, petit test en direct. Vous avez sous le micro trois triangles qui s'appellent Samosa ou oui. Samoussa, comme oui. on dit à ouais. la Réunion. Petit accord Castillon-Samoussa en direct, Jérôme. La sauce circule pour le coup, puisque oui. c'est votre mari qui est venu nous la porter dans
les
le studio.
Il est adorable.
Qu'est-ce que ça donne?
Il y a deux différents, il y a un samosa.
Le gras,
quel régal.
Le gras du vin, la texture de ce vin, qui est relativement enveloppante quand même, s'accorde très très bien avec le samosa. C'est assez inattendu, c'était pas forcément sur le papier l'accord le plus parfait. Je voulais parler de Castillon, et finalement, bah voilà, la jonction entre la Guyenne et la Guyane se fait.
Voilà.
Guyane, France métropolitaine.
Et attention, on n'a pas dit créole. Que la cuisine créole avait une influence africaine.
Mais bien sûr qu'on l'a dit.
On l'a dit ?
Eh oui, les esclaves.
Bon, j'ai eu peur.
Non, évidemment.
Voilà.
Par ailleurs, ça réagit beaucoup justement sur les frontières de la cuisine créole. C'est tout l'intérêt de ces débats dans la cuisine.
C'est une cuisine
et ça
sans
nous plaît,
frontières.
On va vous répercuter quelques réactions de chroniqueurs avec Elvira. Mais dans un instant, on va aussi continuer à voyager évidemment dans le monde créole avec les recettes de Suzy Palatin. La chronique d'Elvira qui va concerner la Louisiane. On va déguster pour l'instant à la sauce reggae. Calypso Blues de Calypso Rose, on aime beaucoup ça. C'est une belle musique ensoleillée. Je vous propose à présent un aller-retour en Guadeloupe, la terre de vos origines, Suzy oui. Palatin. C'était il y a un an, j'ai rencontré quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est même vous qui m'avez mis sur sa voie, Hélin Losange, l'un des pionniers de l'agriculture biologique en Guadeloupe, qui conduit depuis 1989 un véritable jardin d'Éden. Ce sont oui. 4 hectares en bio sur les hauteurs de Sainte-Rose, à l'habitation des Galbas, à Basse-Terre, à l'ouest de la Guadeloupe. Alors oui. s'il fallait se figurer l'île comme un papillon, ce serait sur l'aile gauche de cette île papillon. Et on va voir que la créolité, évidemment, ça se passe dans les marmites, mais ça commence au jardin.
Au jardin, tout à fait.
France Inter, François-Régis Gaudry, on va déguster.
Ouh là là, il y a un gros grain.
Ouais.
C'est normal en cette saison ?
Il n'y a pas vraiment de saison en ce moment, il faut faire avec. Et donc je vais vous montrer quelque chose qui est très très important pour moi, qui est la fertilisation. Donc les noix de coco là, que vous voyez, les commerçants, hein, les gens qui vendent de l'eau de coco et les noix, au lieu de les jeter à la poubelle, à la décharge, ils viennent et là, je les recycle. Une fois compostés, on peut les émietter, on peut les mettre aussi bruts, comme c'est le cas ici, là, par exemple. Et ça, c'est un engrais très, très, très riche, qui a des nutriments dedans. C'est une forme d'éponge qui garde l'eau, qui garde l'humidité.
Ah ouais, ça flotte, là.
Là, il y a des ânes.
J'en ai 5 sous l'exploitation. Ça désherbe, mais vraiment, ce sont les véritables désherbages. Ils sont très utiles. Là, on est un petit peu au cœur, là. Il y a les cerfs hein, qui sont découverts parce que chaque fois qu'on annonce du cyclone ou du vent, il faut enlever les bâches et c'est vraiment pas pratique après, il faut les remettre. Donc là, ils sont découverts, je les laisse comme ça. Donc cette partie de l'exploitation est réservée à tout ce qui est du maraîchage à cycle court. Donc on va faire un petit tour là par exemple. Des légumes qui poussent rapidement, 2-3 mois, la tomate, courgette, nous avons là, nous avons des concombres, des radis, carottes, tout ce qui est cycle court. Vous voyez comment ça se présente un petit peu, donc ça ressemble un peu à un fouillis, hein, avec pas mal de cultures associées, un peu d'herbe aussi, c'est nécessaire, et voir quelques plantes médicinales qui est très très important, cette association de culture service, comme on l'appelle. Donc il faut savoir associer tout ça, savoir mélanger toute cette biodiversité pour créer cet équilibre que nous avons besoin. Là, c'est des plantes patates. Donc les patates douces, dans la tradition des plantations ici, ça se plante en lune.
Donc là, on a en fait un bout de liane.
Et au bout de 3 mois, suivant les variétés, 3-4 mois au maximum, vous avez des racines, des patates.
Mais il n'y a pas de ravageurs et de maladies qui attaquent vos tubercules ?
Eh bien oui, oui, bien sûr. Par exemple, les souris, les rongeurs, les rats, ils aiment beaucoup les patates ou les maniocs et tout ça. Mais en même temps, dans la forêt là, nous avons des chats sauvages. Et donc, y a des chiens aussi qui sont des véritables chasseurs de rats. Et donc, y a cet équilibre qui se fait avec les oiseaux, les anolis, les crapauds dans les mares. Y a tout le monde, régule tout le monde. Et quand ça fonctionne bien, bon, on est juste là pour essayer d'ajuster quand ça déborde un peu.
Ça y est, ça se calme un peu là.
Ça se calme un peu.
Fascinant, jardin créole, hein, ce petit écosystème. Ouais, vous le connaissez bien, Hélène.
Oui, il est naturel, Hélène. Vous avez vu ce qu'il a dit, tout se régule, il a les rats. Et une fois, je lui ai dit, ça te gêne pas qu'il y ait des rats qui mangent tes patates douces? Il me dit non, ils ont droit, les rongeurs, tout ça, ils ont droit à jusqu'à 20%. Mais après, ça devient dangereux. Et là, non, il y a des chiens, il y a des chats, tout le monde est ensemble et...
Sachant
ça
que
pousse, voilà.
le jardin créole, c'est vraiment ce petit écosystème agricole qu'on trouve aux Antilles, qui se passait totalement d'ailleurs d'intrants chimiques, oui. Grâce aux cultures associées. C'était l'entraide entre plusieurs plantes. Quand
exactement.
Vous avez par exemple une légumineuse qui apporte de l'azote, on la plante à côté d'un légume qui en a besoin, etc. Et ce petit jardin créole faisait à la fois office de garde-manger, mais également de pharmacie.
De pharmacie.
Et de réservoir de biodiversité.
Bien sûr, parce qu'il y a les plantes médicinales, il y a tout, il y a...
Jardin créole, c'est évidemment la métaphore presque végétale de la créolité, du métissage des plantes.
Exactement.
Et bien justement,
créole.
Vous allez voir, notre ami Hélène Losange, mais vous le savez puisque vous connaissez son lieu par cœur à Sainte-Rose en Guadeloupe, il ne cultive pas que des légumes.
Je fais aussi des épices hein, et le piment, comme on dit dans la cuisine antillaise, le piment est roi quelque part. Il n'y a pas de cuisine antillaise sans piment.
Et celui-ci, c'est quelle variété ?
Alors, je ne suis incapable de vous dire la variété, mais bon, je sais qu'il y a du Bondam en Jacques, il y a d'autres variétés. Mais en tout cas, c'est le piment qui épice, le piment qui est fort.
Là, c'est des cochons bien nourris.
Oui, bien nourris, nourris naturellement. Tiens, sous l'arbre, là.
On dirait des petites poires.
C'est les pommes d'eau qu'on appelle ça, les pommes d'eau. C'est une variété de Malacca.
Comment ça se mange ? Comme ça se croque ?
Il y a un noyau à l'intérieur.
Ouais. C'est bon.
Ah ouais ?
Avec une pulpe bien juteuse, couleur rouge, fuchsia.
Ouais. Là, on est devant un champ. Bientôt, vous allez voir sortir de terre des ignames, des patates douces, des décamaniocs, de la groseille, des groseilles pays.
Ça, c'est des cocos que vous avez
cueillis ?
Oui, oui, les cocos que j'ai cueillis dans les cocotiers, là, ce matin. Et voilà.
Donc là, vous avez fait un petit trou dans la coque ?
Comme la tradition, comme les gens font ici, hein, pour boire. Et je vois que tu le bois très très bien, tu sais le boire.
Qu'est-ce que c'est sucré ?
Ah oui, alors il y a aussi chez les cocos, il y a énormément de variétés. Il y a des cocos qui ne sont pas sucrés et d'autres qui sont excellents en chair séchée. Et donc il y a toute une diversité en matière de cocos.
Celle-là, elle est extraordinaire, non ?
Les gens aiment bien quand c'est sucré comme ça. Donc on n'a pas besoin de rajouter du sucre.
Ou du rhum.
Ou du rhum. Voilà.
Le soleil va arriver.
Le soleil qui va arriver. Après, ici, c'est toujours comme ça. Après la pluie, le soleil. Voilà. Là, c'est un peu... là où je prépare les bébés plants.
Un peu la pépinière.
Donc, il y a les goyaves, avocats, mangues. Et puis, c'est aussi là où je prépare des plants de légumes. Notamment là, on a des choux qui commencent là. Gombo, on va lancer les laitues parce que c'est ce qui se vend très très rapidement et qui rapporte un peu de la trésorerie rapide parce que c'est la laitue, c'est un mois et puis ça se vend très très bien.
J'aperçois aussi du basilic, il y a des plantes aromatiques.
Aromatiques, oui. Et citronnelle, enfin, tout ce qu'on a sous la main.
Et extraordinaire.
Et en même temps, ces fleurs-là qui attirent les abeilles sont très très attirées par ça et on en a besoin, les abeilles.
Pour la pollinisation des plantes.
Pour la pollinisation des légumes que nous plantons.
Mais vous ne produisez pas de miel ?
Je ne les ai pas dans les boîtes, mais de temps en temps, on peut aller chercher un bout de cassave de miel quand on veut.
Et une petite coco pour la route ?
Coco pour la route, ouais.
Dans le jardin créole d'Hélin-Losange à Sainte-Rose, c'est tout à côté de chez vous, hein, vous le connaissez bien. Hélin, il vous a fourni une partie de vos légumes, Suzy Palatin,
oui,
pour votre livre.
Oui, absolument. Et puis il a des choses qu'on a que des fois on n'a pas. Par exemple, il y a des jacquiers chez lui. Il a des pommes d'eau qui avaient tendance à disparaître. J'adore son jardin créole.
Un vrai conservatoire plantes
vraiment,
antillaises.
C'est magnifique.
On entendait cassave de miel, ça veut dire beaucoup de choses, cassave.
Alors,
dans
cassave,
la cuisine, au-delà évidemment du fameux groupe antillais qui a fait le tour du monde d'ailleurs, un succès planétaire.
La cassave, le manioc, c'est endémique de la Guadeloupe. Et avec le manioc, on faisait une galette naturelle. Et maintenant, on l'a garnie de noix de coco râpées. Sucré. Et la cassave des abeilles, en fait, c'est le
rayon de miel.
Voilà.
Ouais, c'est ça.
C'est tout.
Génial.
On l'appelle comme ça. On a donné cette appellation parce que ça rappelle un peu une galette, une grosse cassave. Parce qu'il y en a de tailles différentes.
Et en parlant de manioc, justement, il circule d'une façon un peu particulière dans les assiettes dont on va déguster. C'est vert. On va appeler ça, mais vous allez m'engueuler, hein, je le sais. On peut surnommer ça le guacamole entier, même si ça n'a pas grand-chose à voir au-delà de la présence de l'avocat.
Voilà, c'est la présence de l'avocat. À part ça, nous avons de la morue, nous avons du piment, beaucoup de citron, de l'ail.
Et le manioc.
Et le manioc.
Et c'est le féroce.
Ça s'appelle le féroce d'avocat. Et en fait, le féroce, c'est ce que mangeaient les travailleurs de force au petit déjeuner. Et c'était le didico, vers 9h, 10h, on s'arrêtait et on se redonnait des forces avec le féroce.
Très bel exemple, là encore, de métissage culinaire, puisqu'il y a de l'avocat et du manioc, ça ce sont vraiment les produits endémiques des autochtones, hein, des Amérindiens.
Voilà, il y a la morue qui intervient et qui a été amenée par les Portugais, et il y a le piment, qui est endémique aussi de chez nous, il y a le citron vert qui a été amené aussi, lui, qui n'est pas endémique. Et voilà.
Qu'est-ce que vous en pensez de ce féroce avocat ?
C'est très citronné. J'aime beaucoup parce que ça rafraîchit considérablement, en fait, le citron.
Voilà. Et ça contrebalance le côté gras de l'avocat.
Exactement. Et il y a le caractère très fibreux de la morue.
Il y a de la texture.
Il y a
de la mâche avec
la
morue.
Il y a le côté filandreux de la morue. Et c'est un plat nourrissant et parfaitement complet.
Oui.
Il y a des féculents, des vitamines.
Il y a tout.
Il y a le citron vert, il y a tout ce qu'il faut. Et c'était une nourriture très populaire.
Je ne dis plus rien. Non, c'était une nourriture très populaire. Dans les champs de canne, les gens partaient en général, dans les champs de canne. Mais quel que soit, les gens qui travaillaient en dehors de chez eux faisaient quelquefois une très longue route pour aller travailler. Et ils partaient donc avec des gamelles. Et dans la gamelle, en général, il y avait ce fameux féroce d'avocat.
Qui en plus se conserve et garde bien sa verdeur grâce à l'acidité,
du citron, mais aussi, alors ça c'est un truc que je vais vous donner, quand vous faites un féroce d'avocat, gardez les noyaux et remettez le noyau dans le féroce terminé, et ça aide à garder l'avocat bien vert.
Ça entrave l'oxydation.
L'oxydation.
Ah, c'est valable aussi pour le guacamole.
Ça, c'est un truc
que vous m'aviez donné il y a des années. J'ai toujours gardé les noyaux d'avocat dans le guacamole ou le féroce, même si je ne le fais pas aussi bien que vous. Beaucoup de
Quand on le dit, les gens ne le croient pas, mais c'est vrai. Il faut vraiment essayer.
Et ça marche.
Vous allez voir, ça marche.
Qui pourra nous expliquer ce qui se passe chimiquement pour que ça marche? En tous les cas, c'est un constat que l'on fait. Beaucoup de revendications sur les frontières du monde créole, mais aussi de bons souvenirs, Elvira Masson, sur le mail de l'émission.
Oui, on nous dit surtout, n'oubliez pas la cuisine haïtienne. N'oubliez pas les Comores, n'oubliez pas Madagascar, n'oubliez pas la Réunion. Et aussi beaucoup de souvenirs qui remontent à la surface. Christelle nous écrit, j'entends cuisine créole et je me replonge instantanément dans mes souvenirs. L'été près de notre barbecue, le poulet boucané qui embaume et cuit lentement. En attendant, quelques acras à l'apéro avec un petit fond de rhum.
Définition du poulet boucané.
Le poulet boucané, c'est un poulet qu'on fait griller avec ce qu'on appelle un boucan, c'est-à-dire avec des feuilles autour, ce qui parfume aussi le poulet. Et en fait, c'est une technique ancestrale, parce que les premiers habitants faisaient beaucoup de boucans. Pas du bruit, hein, mais ils boucanaient leur viande et leur poisson. C'était d'excellents pêcheurs. Oui, et ça a aidé à conserver. D'ailleurs, le piment, les épices qu'on a, on nous dit, ah, c'est très épicé chez vous, mais ça servait aussi à la conservation des aliments.
Haïti, on va y venir dans un instant avec une très très belle recette que vous faites. Mais juste avant, on part en Louisiane. C'est la destination qu'a choisie Elvira Masson à travers le destin d'une grande dame de la cuisine créole.
On va déguster. Sur France Inter.
Lena Richard est née en Louisiane en 1892. Elle commence à travailler à 14 ans, comme la plupart des filles noires du sud des États-Unis à l'époque. Elle donne un coup de main à sa mère et à sa tante qui sont au service d'une riche famille blanche de la Nouvelle-Orléans. Lena Richard aide en cuisine et se fait très rapidement remarquer par la maîtresse de maison qui l'engage à plein temps et l'inscrit à l'école de cuisine locale avant de l'envoyer à la prestigieuse Fanny Farmer Cooking School de Boston. On est en 1918. Lena Richard est la seule noire de l'école, relate l'historienne américaine Ashley Rose Young, qui est historienne et commissaire d'expo au Smithsonian Museum de Washington, site du musée sur lequel j'ai trouvé beaucoup d'informations sur Lena Richard. Et Ashley Rose Young a fait énormément de recherches sur le parcours et l'héritage de Lena Richard. Je la cite. « Ce n'est pas tant que l'école n'admettait pas de femmes noires, mais s'ils l'ont fait, ils ont d'abord demandé la permission à chaque femme blanche de sa classe. » Très vite, Lena Richard s'aperçoit que ses compétences culinaires sont bien plus avancées que celles de ses camarades de classe. « J'avais pas grand-chose à apprendre, dira-t-elle plus tard dans une interview, quand il s'agit de cuisiner des viandes, des ragoûts, des fruits de mer, des soupes, des sauces, nous, les cuisiniers du Sud, nous avons au moins un mile d'avance sur les cuisiniers du Nord. » La preuve, ses camarades ne cessent de lui demander des conseils. J'ai cuisiné pour elle quelques-uns de mes plats préférés du Sud, comme le gumbo. Le gumbo, c'est vraiment une recette mythique de la cuisine créole, la cuisine de Louisiane. C'est un ragoût de crevettes, de saucisses fumées, et le vol-au-vent au poulet, et ça les a rendus folles. Alors je me suis dit qu'un jour, il faudrait écrire toutes ces recettes. C'est chose faite en 1939. Elle auto-édite son Lena Richard's Cookbook, 300 recettes qui se font très très vite remarquer. Un an plus tard, elle est publiée par une grande maison d'édition de New York. Son livre devient alors The New Orleans Cookbook. C'est le premier livre de cuisine créole écrit par un Afro-Américain et qui plus est, une femme. Car jusqu'alors, les éditeurs publiaient des livres de cuisine créole écrits par des auteurs blancs qui s'appropriaient les recettes afro-américaines. Ça devient un best-seller. Lena Richard devient la fierté du Sud pour à la fois cette force symbolique mais aussi parce que ses recettes sont d'une justesse incroyable. Elle simplifie quand il le faut, elle allège et le répertoire qu'elle propose est d'une grande richesse. De ses baked turtle in shell, tortue cuite dans la carapace exactement, à ses stuffed oysters, gumbo filet, crawfish and shrimp bisque d'écrevisses et crevettes, et de turtle soup. Il y a aussi, et peut-être surtout, chez Lena Richard, son très fort engagement social envers sa communauté. Elle écrit dans la préface de son livre qu'elle veut enseigner ses recettes aux futurs cuisiniers et cuisinières noires qui pourront ainsi exiger des salaires plus élevés. En 1937, Lena Richard ouvre son école de cuisine pour enseigner aux jeunes afro-américains les métiers de la cuisine et de l'hôtellerie qui leur permettraient de faire face à l'adversité du Sud ségrégué des lois Jim Crow. Un an plus tard, elle lance une marque de produits surgelés qui marche très très fort. Elle ouvre Lena's Eatery, qui est vraiment un restaurant où tout le monde accourt à la Nouvelle-Orléans. Puis, elle devient chef de Travis House en Virginie, où Churchill s'attable et lui réclame un autocrate après le dîner. Malgré ce succès immense auprès de la upper class blanche, elle revient à la Nouvelle-Orléans, où elle ouvre une adresse mythique, en 1949, Lena Richards Gumbo House, où se retrouvent noirs et quelques blancs aussi qui défient les lois de ségrégation. La même année, elle devient la première femme noire à animer une émission de cuisine à la télévision. Elle gagne un public encore plus large et meurt brutalement un an plus tard, à 58 ans. Et désormais un peu tombée dans l'oubli. Lena Richard a défié tous les stéréotypes. Elle a pris tous les risques, par amour de la cuisine créole et par soif de liberté et d'égalité, dit d'elle Jessica B. Harris, la grande historienne et autrice culinaire américaine, spécialiste de toutes les cuisines afro-américaines ou afro-descendantes, dont le livre Beyond Gumbo, non traduit évidemment.
Ah, ça c'est toujours le problème.
Ma petite marotte.
Et ben voilà, on a envie, et il n'est pas traduit.
Ça a été édité par l'éditeur américain Simon & Schuster.
Dans le monde de l'édition française.
Exactement. Et c'est une déclaration d'amour aux cuisines créoles qui va au-delà du gumbo de Louisiane et qui nous embarque du côté de Porto Rico, du Belize, d'Haïti, jusqu'aux descendants des Yoruba au Brésil.
Incroyable. Très,
le
très
gumbo,
beau dessin.
Ça me rappelle le calalou chez nous. Et le calou en Guyane, il y a une recette qui est vraiment... Ça prouve vraiment que la cuisine créole
est un long voyage.
Définition du calou ou calalou.
Calalou, alors c'est un peu comme le gumbo, comme le gumbo de Louisiane. Mm-hmm. C'est un plat qui est fait avec du crabe, du riz, des feuilles de taro. Vous connaissez le taro, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un tubercule. Et il y a des feuilles, les feuilles sont comestibles. C'est délicieux. Et donc on fait avec ça un plat mythique en Guadeloupe, qu'on fait aussi en Guyane et qu'on fait en Louisiane, et qui s'appelle le calalou chez nous.
Preuve que vous faites vraiment le tour de la question, chère Suzy, dans votre livre « À ma table créole » aux éditions Hachette Cuisine, la Louisiane est également présente. Hein.
Oui, je crois que j'ai mis le gumbo et j'ai mis le jambalaya.
Allez, un petit pas de côté du côté d'Haïti, avec cette très belle spécialité qui associe une céréale et une légumineuse. Je veux parler de riz et de lentilles, tout ça lié au lait de coco.
Au lait de coco.
Ah, c'est bon.
Oui, c'est bon. Les Haïtiens font... Alors, moi, je l'ai associé à les lentilles beluga, mm-hmm. parce que j'ai fait une sorte de traversée créole, puisque nous avons aussi une communauté libanaise qui fait très, très bien la cuisine. Et ma mère m'a toujours fait de la cuisine libanaise. Elle faisait de très bons jadara.
Moujadara, qui est justement...
Le riz aux lentilles libanais.
Mais du côté levantin.
Voilà, et elle faisait aussi, elle fait toujours de merveilleux kébé. Et donc,
oui,
voilà.
Parce qu'il y a plusieurs milliers de Libanais installés depuis très longtemps.
Oui,
en Guadeloupe.
En Guadeloupe. Et donc, il y en a à peu près 40 000. Et donc, les Haïtiens, par contre, font un très bon plat que j'adore. Il y a le riz djonjon, mais il y a aussi le riz aux haricots noirs qui est fait avec le lait de coco. Donc j'ai fait une traversée, je me suis tout permis parce que je suis créole, et j'ai fait mon riz, au lieu de faire aux haricots noirs, j'ai fait avec les lentilles noires beluga au lait de coco.
Voilà,
donc on est moitié libanais,
haricots,
moitié haïtien.
Et voilà, c'est ça, la cuisine qui se mélange, qui se transforme, qui se métisse. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant. Et puis on a évidemment la rondeur et la douceur de ce lait de coco,
oui.
Dans lequel mijote effectivement le riz.
Et beaucoup d'oignons, comme dans le moujadara.
Bravo. Il y a plein d'auditeurs qui nous demandent à quoi sont vos samosas. On a oublié de le préciser. Celle-ci, cette version, elle est au veau.
Elle est au veau, et normalement, je la fais aussi. On peut faire des samosas à l'agneau, on peut en faire au bœuf, on peut en faire au poisson. En fait, on met ce qu'on veut dans ce petit beignet magique. Et là, Mes enfants s'amusent à en faire au fromage. Donc, je vous en ai ramené au fromage et aux herbes.
Sachant que la recette que l'on a sur Internet, c'est veau et agneau, je crois.
Veau et
la farce
agneau,
veau
absolument.
Et agneau avec des épices.
Et ça, c'est vraiment délicieux.
Un samosa excellent avec des feuilles de brie. Et on finit par une touche sucrée, évidemment.
On
alors,
finit
on va se faire gronder
oh là
par
là.
Les auditeurs et les auditrices à cause de la mangue, puisque vous nous faites un blanc mangé de mangue. Mais vous l'avez rapporté pour nous dans vos valises.
Oui, parce que.
Depuis la Guadeloupe.
Oui, on a de la mangue toute l'année avec un pic, mais vraiment énorme pendant les vacances. De juillet, août, mais même encore maintenant, on peut trouver un peu de mangue sur les marchés.
Voilà, vous aimez ou pas ce blanc mangé de
c'est
mangue
c'est du velours.
Vous mélangez
bon.
La chair, la pulpe de la mangue avec le lait de coco.
Avec le lait de coco.
Et
un peu de
lait
vanille.
Concentré sucré.
Et un peu de vanille, un peu de lait concentré sucré.
Vous
et
aimez
un
ou
peu
pas
de vanille.
J'ai trouvé ça absolument délicieux.
Voilà, blanc mangé, mais il a déjà fini son assiette, Jérôme Gagnez. Mais de toute façon, à la table de Suzy Palatin, on se régale toujours. Bravo, ma chère Suzy, à ma
c'est
table
fini
créole aux
non,
éditions Hachette
pas.
Cuisine. Déjà, on a passé 55 minutes ensemble.
Non, c'est pas vrai.
Et oui, mais
non,
on a
avancé
adoré.
Le réveil.
On a adoré votre leçon de cuisine. La semaine prochaine, plein feu sur un fromage qui a beaucoup de succès en ce moment, et notamment dans les stations de sport d'hiver, c'est le reblochon. Notre spécialiste Pierre Coulon nous en parlera. Dominique Hutin et Zazie Tavitian seront dans les fauteuils des chroniqueurs.
Mais je fais un plat créole avec le reblochon.
Vous nous en parlerez.
Je reviendrai.
À dimanche prochain, si vous avez encore faim.